Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Nous poursuivons donc notre visite de certaines églises dans la ville de Rome. Alors nous arrivons dans l'église du Jésus, donc du Jésus, qui est une église qui appartient à la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire les Jésuites. Et c'est là que se trouve l'église mère de tous les Jésuites et d'une certaine manière aussi de l'endroit où Ignace de Loyola s'est installé lorsqu'il est arrivé à Rome. Il faut savoir qu'il y a l'église du Jésus, mais il y a aussi la grégorienne, il y a le biblicum. On se rend compte que tous ces terrains ont été acquis par les jésuites, en même temps qu'Ignace, mais aussi les descendants. Donc c'est une part importante des terrains de la ville de Rome. Et aujourd'hui, bien, on ne peut pas distinguer toutes ces choses-là, mais on se l'imagine d'une certaine manière. Donc, nous entrons dans l'église et c'est tout de suite l'impression grandiose. C'est quelque chose de grandiose, de très beau, de très italien, peut-être même très espagnol, parce qu'on sait que les églises en Espagne sont très décorées, donc on entre dans un univers artistique absolument merveilleux. Et tout de suite, du côté gauche, nous nous arrêtons à quelque chose qui semble une nouveauté. Et ce sera d'ailleurs une nouveauté. Donc c'est une arche. Je vous donne en gros l'impression que ça nous donne, en ce sens que c'est comme une boîte assez grande dont le couvercle est comme une toiture. Donc vous avez l'arche qui probablement représente aussi le bateau, donc c'est une boîte bateau, et sur le dessus nous voyons une colombe. Alors il y a toute une catéchèse qui entoure cette arche, et c'est l'arche qui contient les reliques de tous les saints et bienheureux, surtout les martyrs qui font partie de la Compagnie de Jésus. Alors il semble que toutes ces choses étaient dans une sacristie, cachées d'une certaine manière, donc on a voulu les rassembler pour que le corps entier de tous ces martyrs à travers les siècles soit réuni ensemble. Donc l'arche contient justement les restes, les reliques de tous ces saints et de tous ces martyrs qui ont traversé la mer des siècles, nous pourrions dire. Ou peut-être pourrions-nous ajouter le déluge à travers lequel l'humanité se transmeut et continue d'avancer. C'est l'interprétation que moi je donne, puisqu'on appelle cela l'arche. Donc, il y a une catéchèse absolument splendide qui se dégage de l'artiste sculpteur qui l'a fait. C'est quelque chose de contemporain. Alors, l'arche est posée sur quatre pieds en forme d'animaux. Vous avez d'abord, et tous ces animaux symbolisent le mal avec un grand M, le diable, le démon, le diviseur, le père du mensonge. Nous avons d'abord la tortue. Et c'est étrange, mais elle symbolise dans ce contexte ce qu'on appelle la paresse. comment la paresse peut être un mal? Eh bien, la paresse, c'est le mal qui n'avance pas beaucoup, c'est-à-dire il avance dans la mesure où il n'avance pas. Il retient, il rend captif, il prend tout l'être des pieds à la tête, en passant par le cœur et l'esprit, et d'une certaine manière amplifie le contraire du mouvement. C'est une sorte de, quand on dit qu'on piétine, on tourne en rond. Alors ça ressemble à cela, la paresse. La paresse qui se complaît en elle-même. La paresse qui, d'une certaine manière, ne fait rien avancer. Donc c'est un mal subtil, représenté ici par la tortue, qui n'avance pas comme le lièvre. Deuxième animal, c'est le crapaud. Et ici, le symbole est celui de la laideur du mal. Alors un crapaud, c'est pas un top modèle de beauté, là. Donc, l'artiste a fait un crapaud qui représente cette laideur. Le mal est laid. La laideur du mal. Et quand on regarde tout ce qui peut se passer parfois de haine, le mal qui tue, le mal qui détruit, le mal des guerres, le mal des divisions, le mal de toutes les formes que vous pouvez vous représenter, apporte avec lui son cortège de laideur. Donc c'est le crapaud qui représente la laideur du mal.
Voici maintenant l'émissive. Il s'agit de 18 lettres d'un descendant de Bernardo di Perugia, Bernard de Honfleur, ou descendant de Béic di La Fleur, Leonardo di La Fleur. Nous sommes 400 ans plus tard. C'est Bernard de Honfleur en France qui prend l'initiative. Il désire venir en Nouvelle-France et se raconte. Prise de son Yannick Caron, musique et bruitage François Couture. Cher Leonardo, vous décrire l'état dans lequel je me trouve vous paraîtrait irréel. Nous avons atteint le port de Saint-Malo sans difficulté. Après, je me suis rendu jusqu'à Honfleur pour y revoir ma famille. C'était mon désir le plus nécessiteux après ces dernières années. Le marchand n'a pu venir étant trop souffrant. Un problème dû à la mauvaise alimentation sur le bateau. Il n'aurait pas eu la force de faire la route. Nous nous sommes laissés sur deux consignes. La première étant que je vienne le rejoindre pour une autre traversée vers la Nouvelle-France. La seconde, que je revienne plus tard par un autre bateau, afin de demeurer plus longtemps avec les miens. Il se montra fort aimable dans les deux cas. Nous avons reparlé de la défense des droits concernant les épistolaires. Il trouvait hasardeux de séparer les ayants droit entre vous et moi, et préféra que ce soit moi seul. Ce fut pénible comme décision, mais étant donné les difficultés soulevées et les risques de ces sommes envoyées, je suggérai que votre part soit conservée pour ma filleule Clotilde. Ce qui fut accepté. Mais Rien ne nous assure que toutes ces choses se réaliseront comme nous l'entendons. L'impression italienne tarde également, et pour les mêmes raisons. Encore les écus. Pardonnez-moi de vous ennuyer. Je suis arrivé en Honfleur un jour de brouillard. Personne ne m'attendait. J'ai revu avec tant de joie ma mère alitée. Elle ne s'en remettra pas. Et Dieu savait son heure de quitter ce monde. Mon père n'eut pas la même joie à me revoir. Il semblait contrarié. Je compris plus tard. Quant à mes sœurs, elles m'ignorèrent, prenant des airs de duchesse inaccomplie. Elles avaient des propos de sotte. La belle histoire est que le clavecin, étant à la demeure de la duchesse, de veuve mémoire, cela fit en sorte que le claveciniste y passait tout son temps. N'allez pas croire qu'il donnait des concerts à répétition. Non. La duchesse avait mis sa main sur lui, et mon père ne s'en défendait guère. Ma mère restait seule à la maison, alitée, et mes sœurs, chacune à leur tour, venaient passer le jour avec elle. Mon père entrait la nuit souvent très tard. Nous avons assez de lucidité pour saisir l'enjeu de tous ces déplacements. Mes sœurs couvraient mon père, lui-même sous le couvert de la duchesse. Vous comprenez maintenant le peu de joie à me retrouver. À mon arrivée, je ne leur révélai point mes plans, qui étaient de retourner en Nouvelle-France. Ils ne surent rien des épistolaires. Je restai près de ma mère, qui mourut 2 semaines après mon arrivée. Je ne vous écris rien des obsèques. Perdre sa mère est une grande épreuve, en tout cas pour moi. Ce fut le jour le plus pénible de toute ma vie, tant je l'aimais. Dans les jours qui suivirent, j'eus un rêve, ou plutôt un songe. Je me voyais pèlerin, tout comme mon ancêtre Bernardo di Perugia, et je marchais dans des champs de blé. L'impression de paix était indescriptible. C'est alors que je pris la décision suivante, et qui vous concerne, si vous l'accueillez favorablement. La voici. Je désire vivre ce que mon aïeul a vécu en me faisant pèlerin, d'Assise à Rome et de Rome à Perugia. J'aurai toute ma vie pour retrouver la Nouvelle-France, où je compte bien prendre épouse. Je vous donne rendez-vous à San Damiano, à la Pentecôte, l'an prochain, c'est-à-dire dans quelques mois. Je désire vivre Noël ici, à Honfleur, dans le deuil. Pourquoi San Damiano? Bic, dit la fleur, le lisait à chaque épistolaire, dont je vous ferai le récit en italien après m'être procuré un exemplaire en François. Vous imaginez? Je vous lirai les épistolaires, d'abord écrits en italien, puis traduit en François, en langue italienne, au cours de ce pèlerinage avec vous. Je vous laisse libre de me rejoindre. N'ayez crainte si vous ne venez pas. Je vous aimerai toujours. Si vous n'êtes pas à San Damiano, à la Pentecôte, je partirai le lundi suivant cette solennité pour me rendre à Rome. On ne fait cela qu'une fois dans sa vie. Et j'ai décidé de m'y aventurer. J'ai commencé à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Vous vous souvenez comment c'était impossible pour moi les 77 fois ces fois? Il fallait commencer. Et ce fut envers mon père. Lors des obsèques de ma mère, tôt le matin, la duchesse avait organisé un concert intitulé « Les matinales ». Je fus le seul et unique membre présent de ma famille dans une petite chapelle de Honfleur, entouré de ma parenté outrée de l'absence de mon père et de mes deux sœurs retenues pour cause d'embauche. Après Noël, je partirai pour Paris et ne reviendrai qu'en février pour me rendre en Italie avant de retrouver San Damiano. Et peut-être vous. Comme nous ne nous sommes jamais vus, je porterai des haillons. Priez la Madone. Et moi, je prierai Notre-Dame. Bernard de Honfleur, Québec, vôtre. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.